Alors, l'oppidum de Constantine se trouve à Lançon de Provence. Il est lié à une légende de trésor enfoui. Il s'agit d'un site fortifié qui court sur environ 6 hectares, sur le plateau qui domine à la fois l'étang de Berre et la plaine de l'Arc. Il compte parmi les oppidas les plus importants du sud de la France. Alors pourquoi Constantine ? Achard et Villeneuve écrivent tous les deux que le site porte le nom de l'empereur Constantin Ier qui se serait retranché dans cette forteresse pour y établir un poste militaire. Mais qui était Constantin ? Constantin, il est né entre 271 et 277 sous le nom de Flavius Valerius Aurelius Constantinus et il fut le 34e empereur de Rome et il a régné dans la première moitié du 4e siècle. On le connaît surtout parce que c'est lui qui a fondé Constantinople en prenant Rome pour modèle et il est surtout connu pour avoir été le premier empereur romain chrétien. En 311, il est à Arles, il possède une résidence et la ville d'ailleurs va s'appeler pendant quelques années Constantina. Alors pourquoi Constantin serait passé à Lançon ? Alors bien sûr, l'empereur réside à Arles, qui n'est qu'à une quarantaine de kilomètres, mais ça ne suffit pas pour dire qu'il est passé à Lançon. Florence Verdun, qui est archéologue et qui a fait l'étude du site de l'oppidum, dit que la chronologie du site va à l'encontre de l'histoire de Constantin ayant trouvé refuge à Lançon. Parce que le site avait été abandonné pendant cette période de l'histoire et n'a été occupé qu'à partir de l'extrême fin du 4e siècle, donc plusieurs décennies après la mort de l'empereur. Alors ce site est un site fortifié. Le plateau est protégé au sud, à l'est et sur une partie de la face ouest par des falaises. Au nord et sur la part restante de la face ouest, les hommes avaient construit des tours et des remparts défensifs. On sait qu'en 1924, les murs s'élevaient encore jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ils faisaient 3 mètres d'épaisseur, donc des fortifications conséquentes. Il y avait 8 tours semi-elliptiques et 2 tours carrées, bâties en pierre sèche, espacées d'environ 30 à 40 mètres les unes des autres. L'accès au site se faisait par 2 portes, une au sud, donc qui était l'accès principal, et une autre au nord-est. On trouve aussi les vestiges d'une église datant du 5e siècle, et le site semble avoir été définitivement abandonné dans le courant du 6e siècle. C'est la fin de son histoire, mais c'est aussi le début de sa légende. Nostradamus a écrit que le site abriterait, je cite, un demi-rond relevé dans lequel il y a une fente du rocher, et à cet endroit, ceux du passé ont cherché un trésor. Ils auraient trouvé du marbre et du plomb métallique, mais Nostradamus prétend que, à cet endroit-là, seraient cachées les os de Marc-Antoine et le trésor de Constantine. Alors, dans les centuries de Nostradamus, on trouve plusieurs quatrains dans la première, troisième, cinquième et septième centurie qui évoquent ce trésor. Alors, par exemple, dans la première centurie, un quatrain nous dit « Non loin de là est caché le trésor qui, par de longs siècles, avait été grappé, trouve Moura l'œil crevé de ressort. » Alors ça a intrigué beaucoup les hommes de son époque et ceux qui sont arrivés après, et au XVIIe siècle va démarrer une des plus importantes campagnes de recherche du trésor enfoui de Constantin par Antoine de Cona, un Milanais, qui, disait-on à l'époque, se mêlait de faire des horoscopes. Deux manuscrits relatent cette chasse au trésor, un de Fabry de Péresque et un deuxième dont l'auteur est resté anonyme. Tout ça se passe en 1621. Antoine de Cona avait été emprisonné pour avoir détourné de l'argent. Il a réussi à se faire libérer en faisant miroiter à un conseiller au Parlement de Provence la découverte puis le partage, à hauteur de un tiers pour lui et deux tiers pour le roi, du trésor de Constantine qui, disait-il, représentait l'empereur Constantin, Sainte-Hélène et sa fille, plusieurs coffres pleins d'or, le tout enfermé dans une cave voûtée dans les ruines et masures de certains anciens bâtiments qu'on voit sur la colline près du village de Lançon. Un siècle plus tard, on parlera même de statues en or, en argent, de jaspe et de médailles. Alors d'après la description qui est donnée, il s'agit vraisemblablement d'un aven latéral et l'Italien va creuser jusqu'à 60 mètres de profondeur pour trouver ce trésor. Il s'engage à financer l'opération et pour cela, il va vendre toute sa vaisselle en argent et on nous dit qu'il recrute des volontaires venant de Lançon et des villages alentours. Les fouilleurs finissent par trouver une plaque de marbre et une cave voûtée. Mais ils se heurtent à une difficulté de taille. Les torches refusent de brûler et paraît-il que seule la flamme d'un cierge béni par l'archevêque, présenté à l'entrée de la cavité, peut se maintenir. Alors évidemment, des hommes essayent de passer outre et ils décident de s'éclairer au charbon, mais ils meurent étouffés dans la cavité. Alors les hommes se découragent et De Cona finalement décide de se lancer seul dans l'exploration d'une autre cavité un peu plus à l'est, qui vraisemblablement est un puits citerne. À l'époque, certains ont écrit un faux quatrain écrit à la manière de Nostradamus pour se moquer de lui. Il écrit « Près du Rèbre », alors qu'est l'anagramme de Berre, « Où est la plage marine, un philosophe en vain cherchera en remuant la terre de Constantine. En bref, content et riche, il deviendra. » Et pourtant, il n'est pas du tout devenu riche puisque De Cona n'a strictement rien trouvé à Lançon. À la fin du XVIIe siècle, des recherches sauvages continuent puisque le duc de Vendôme, qui est alors propriétaire du domaine de Calissane sur lequel se trouve le site, va déposer une plainte contre des ouvriers qui opèrent des terrassements sans son autorisation. Il rappelle qu'une même plainte avait déjà été déposée contre le Milanais en 1621. Quelques années plus tard, en 1687, il ordonne aux ouvriers qui font des ouvertures et des terrassements et qui détériorent ces terres de ne pas poursuivre leurs recherches sans l'autorisation du seigneur. Pourtant, les fouilles continuent, et elles vont continuer longtemps, puisqu'en 1813, on finit par trouver 60 pièces d'or romaines, datant de l'époque des empereurs Vitellius, Vespasien et Titus. En 1823, on va trouver une urne qui renferme d'autres pièces. Et en 1879, on fait une nouvelle exploration du premier puits de De Cona. Les fouilleurs descendent à 80 mètres, donc 20 mètres plus profond que l'italien, et ils vont sortir une statue de Jupiter olympien en pierre d'un mètre de haut. Elle avait été déposée à cette époque-là au musée Borelli. Alors d'autres cavités sont dues aux explorations des chercheurs de trésors des trois derniers siècles, et pourtant on peut penser que les objets de valeur, s'il y en eut, ont certainement été évacués du site lors de la phase de réinstallation dans l'Antiquité tardive. Il est possible que ces transports d'objets antiques se soient transmis de manière orale, donnant naissance à la légende d'un trésor associé à un lieu de culte antique. Alors il existe une autre hypothèse sur la naissance de cette légende. En 1913, Joseph Gazet écrit un article dans les Annales du Midi et il explique que l'église du château de Miramas possédait, à la fin du XIIe siècle, les reliques de Constantin et de Sainte-Hélène. Un quartier de Miramas, celui de la gare, s'appelle le quartier Constantine, comme l'oppidum. Des reliques auraient été confondues ou assimilées à des trésors dans la mémoire populaire et les découvertes de monnaie à l'effigie des empereurs romains dans les alentours de l'oppidum, aurait relocalisé ce trésor dans les collines de Lançon. Alors Antoine de Cona, l'Italien qui a fait les premières fouilles importantes, parlait déjà de Sainte-Hélène dans sa description du trésor. Sainte-Hélène, c'était la mère de l'empereur Constantin, elle s'était convertie au christianisme et elle est connue pour avoir recherché les reliques de la vraie croix. Elle est la sainte patronne des teinturiers, des marchands de clous, des marchands d'aiguilles et, chose intéressante, des archéologues. Alors une partie de ses reliques, ainsi que celle de son fils Constantin, se trouvaient donc dans l'ancienne église de Miramas et elles y sont restées jusqu'à la Révolution française. Alors quoi qu'il en soit, que ce trésor ait existé ou non, il continue d'exciter l'imagination des chercheurs de trésors encore aujourd'hui, puisque un roman paru en 2014 qui s'appelle « Péché originel » a pour point de départ de son intrigue la mention du trésor de Constantin par Nostradamus. Rappelons tout de même, pour les chercheurs de trésors qui décideraient de se lancer dans l'aventure, que l'oppidum de Constantine se trouve sur une propriété privée et qu'il est donc interdit d'y aller pour creuser des trous.
Sandrine Chabre, historienne de l'art.